Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Sujet grave dans cet épisode d'Asialogie, puisque nous allons parler de l'invasion de la Chine par le Japon. Et en 1937, du massacre de Nankin, qui représente l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du monde du XXe siècle.
Ah, tout de même, d'accord.
On en parle peu souvent.
Ok.
Alors, pour revenir à plus léger, oui. Didier, tu vas nous raconter les origines lointaines du riz et son arrivée en Europe et en France.
Et en France,
sûr.
Surtout, exactement. Bon, alors, commençons par autre chose. Alors, comme tu nous l'as dit, il y a quelque chose de grave. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer que la Chine a pu être envahie par le Japon. C'est vrai que quand on voit la géopolitique du moment, on ne se dit pas ça. Mais comment c'est arrivé, Corinne ?
Oui, comment c'est arrivé ? C'est au début du XXe siècle que c'est arrivé.
D'accord.
Après la première révolution, il y avait une grande instabilité politique en Chine. On avait vu ça avec Sun Yat-sen.
Oui.
Et le Japon, lui, était devenu une puissance industrielle et militaire majeure en Asie grâce à sa politique impérialiste.
Oui.
Alors après les réformes de l'ère Meiji, le pays avait adopté une politique expansionniste pour s'approprier des ressources naturelles. Comme en Corée, et ainsi accroître son influence. Il faut se souvenir aussi que le Japon avait déjà été victorieux lors de la première guerre sino-japonaise en 1895, et aussi lors de la guerre russo-japonaise en 1905. Ils étaient vraiment une grande puissance,
les Japonais. Ils sentaient puissants, forcément. D'accord.
Exactement. Et dans les années 30, la situation en Chine était particulièrement fragile, entre la première révolution, la deuxième. Il y avait une grosse désunion politique, et puis le gouvernement nationaliste dirigé par Chiang Kai-shek avait du mal à consolider son autorité.
D'accord.
Surtout face à la montée du mouvement communiste mené par Mao Tse-tung.
Okay.
Donc on était vraiment un peu dans le... C'était confus en
Chine, je comprends. Alors, le Japon a donc profité de la situation et de ce flou. Mais comment a-t-il pu prendre le contrôle de la Chine ?
Oui, comment il a pu prendre le contrôle de la Chine, Didier ? Tout simplement en créant de toutes pièces un attentat qui servira de prétexte. C'est en 1931 que tout va commencer avec l'organisation par l'armée japonaise de ce que l'on appelle l'incident de Mukden.
Ok.
C'est précisément le 18 septembre 1931 qu'une petite explosion a été déclenchée sur une voie ferrée japonaise près de la ville de Mukden. Aujourd'hui, c'est Shenyang.
D'accord, ça me fait penser au Lotus bleu de Tintin, ça.
Oui. Okay. Voilà, et puis ça peut nous faire penser à ce qui se passe dans le Golfe.
Exactement, oui, c'est vrai.
Alors, l'armée japonaise va accuser les Chinois d'avoir saboté la ligne, ce qui était faux, bien sûr. Et cette fausse attaque va permettre à l'armée impériale japonaise de lancer l'invasion, puis l'occupation de la Mandchourie, pour établir en 1932 le fameux état fantoche du Mandchoukuo, avec l'ex-empereur chinois Puyi, qui va devenir empereur du Mandchoukuo. On s'en souvient.
Alors, cet événement
va marquer le début de l'agression japonaise en Chine et sera un tournant précurseur de la Seconde Guerre mondiale en Asie, Didier.
D'accord. Alors, pourquoi la Mandchourie ?
C'était très bien pensé d'occuper la Mandchourie, car cette région de la Chine était celle de Puyi.
D'accord.
Parce qu'il était Mandchou, Puyi.
Okay.
Et Puyi a pu y voir une légitimité à devenir empereur. C'était son pays d'origine.
Bien sûr.
Mais surtout, la Mandchourie était très riche en ressources naturelles. Les Japonais ne sont pas fous. Et proche de la Corée, qui était déjà colonisée.
Okay.
Donc, ça faisait
c'était facile aussi.
Voilà.
D'accord.
Et puis, il y a bien eu des protestations internationales, mais ça n'a servi à rien. Alors, le Japon a consolidé sa présence là-bas afin de poursuivre son expansion, bien sûr, en Chine du Nord, ce qui a augmenté les tensions entre les deux pays au cours des années suivantes.
Ok.
On s'en doute. Oui. Alors, la guerre ouverte va éclater en juillet 1937 à la suite d'un autre incident. C'est l'incident du pont Marco Polo près de Pékin. Alors, c'était pourtant un affrontement mineur entre soldats japonais et chinois, vraiment pas grand-chose, mais ça s'est transformé rapidement en un conflit de grande ampleur avec l'offensive massive de l'armée japonaise contre les forces chinoises.
Voilà. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur ce pont Marco Polo,
Corinne? Pas grand-chose. Il est comme pour comme à Mukden.
Ouais, c'est un prétexte.
Mais la suite a été dévastatrice. Oui, c'est ça. C'est un prétexte.
D'accord.
Ça a été dévastateur pour la Chine ensuite.
Okay.
Hein. Alors, il y avait des soldats japonais qui effectuaient des manœuvres militaires près de ce pont.
Ouais.
Et tout près des positions chinoises. Alors, il y a des coups de feu d'origine inconnue qui ont été échangés.
C'est ballot.
Et l'armée japonaise a accusé encore une fois les forces chinoises d'avoir attaqué.
C'est tellement pratique.
Voilà. Alors, les Japonais ont exigé d'enquêter, mais les autorités chinoises ont refusé, ce qui a provoqué des affrontements pour s'étendre à une guerre ouverte entre la Chine et le Japon, et donc le début de la seconde guerre sino-japonaise. Mmh. Alors, au début du conflit, les Japonais avaient un avantage militaire important, car leur armée était mieux équipée, mieux entraînée et mieux structurée.
Ouais.
Par contre, en face, les forces chinoises souffraient d'un manque d'armement moderne et d'une organisation parfois chaotique.
D'accord. Mais alors du coup, avec ce que tu me décris, est-ce que les Chinois ont pu résister longtemps ?
Non, quelques mois, malgré leur détermination à défendre la souveraineté de leur pays. On imagine quand même un grand pays comme ça.
Oui.
Mais malgré de lourdes pertes humaines, ils ont tenté de résister, notamment lors de la bataille de Shanghai en août 1937. Mais avec leur supériorité militaire, les Japonais, qui avaient une très grande armée, vont prendre le contrôle de Shanghai en novembre 1937, ce qui ouvrira la porte vers Nankin, qui était la capitale de la République de Chine. C'était la République de Chine à l'époque.
Hein,
où se trouvait donc Chiang Kai-shek et puis son gouvernement.
Okay.
Et Chiang Kai-shek va se retrouver face à un dilemme, défendre la capitale et avoir des pertes considérables, et peut-être même avoir Nankin détruit ou abandonner la capitale sans résistance, ce qui serait perçu comme un signe de faiblesse.
Forcément,
voilà, alors finalement, Chiang Kai-shek va décider d'évacuer le gouvernement vers Wuhan, tout en laissant sa garnison, garnison pour défendre la ville. Bon, la suite après une pause musicale. Alors, c'est une chanson qui a été écrite justement à cette occasion. C'est un chant patriotique chinois qui a été écrit... par Pao Maonong en 1937 et ça raconte l'incident du pont Marco Polo.
D'accord, ok, très bien.
Voilà. Donc c'était la balade de la Grande Muraille.
Et c'est ça, voilà. Alors, petite chanson, moi je n'ai pas compris les paroles, mais ça devait parler donc du pont de Marco Polo.
C'est
ça. Ok. Alors, reprenons. Le décor est planté. On arrive donc au cœur du drame de Nankin, Corinne.
Oui, tout à fait. C'est la chronique d'une mort annoncée, Didier.
Ah, rien que ça.
Oui, car les forces chinoises présentes à Nankin étaient mal préparées, ça on s'en doute un peu.
D'accord.
Beaucoup de soldats étaient épuisés après la bataille de Shanghai et ils n'avaient pas eu assez de temps pour renforcer suffisamment les fortifications de la ville.
Ah,
alors on peut affirmer que la situation militaire chinoise était déjà désespérée lorsque les troupes japonaises sont arrivées aux abords de la capitale en décembre 1937.
D'accord.
Alors l'assaut final aura lieu en décembre, au début du mois, avec d'intenses bombardements sur les positions chinoises, ce qui permettra aux Japonais de progresser rapidement vers les murs de Nankin, qu'ils franchiront le 13 décembre.
Okay.
Les Chinois n'ont pu résister longtemps et de nombreux soldats ont tenté de fuir en abandonnant leurs uniformes pour se mêler à la population civile et se cacher.
Ok, bon, et ils ont réagi comment les Japonais à ça? Ça me fait penser à ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, enfin, au Liban particulièrement, entre Israël, le Hezbollah et la population civile. Quoi.
Oui, au Liban, exactement, pris, Didier, ça m'a fait penser à ça.
D'accord.
Comme quoi l'histoire se répète
indéfiniment. Malheureusement, oui.
Alors, à la suite de cela, une vague de violence massive contre les civils, évidemment, et les prisonniers de guerre a eu lieu.
D'accord.
Et cet épisode est connu sous le nom de viol de Nankin, c'est le mot historique, ou le sac de Nankin.
Ah oui, ça me parlait,
Et c'est un massacre qui s'est déroulé sur plusieurs semaines. Les soldats japonais ont exécuté massivement des milliers de soldats chinois capturés par fusillade ou à l'arme blanche.
Bah tiens.
Alors des témoignages ont parlé de concours macabres entre officiers japonais pour déterminer qui pourrait tuer le plus de prisonniers et de concours de photos de têtes coupées.
Ah oui, c'est morbide. Hein.
Ah oui, c'était quelque chose de vraiment épouvantable.
Je comprends pourquoi ça s'appelle viol de Nankin.
Et je pense que c'est de temps en temps de rappeler les choses qui sont passées. C'est important. Alors les civils, bien sûr, n'ont pas été épargnés. Hein. Les soldats japonais ont pillé la ville, incendié des quartiers entiers et ont commis d'innombrables viols et de mutilations des femmes. Et les estimations du nombre de victimes varient, mais de nombreux historiens évoquent environ 200 000 à 300 000 morts
tout de même.
Pour une ville qui comptait à l'époque 1 million d'habitants.
Wow.
Donc plus de 30%, 50% de femmes.
Alors comment a-t-on pu faire cesser ces atrocités du coup alors?
Alors ce sont les étrangers occidentaux restés à Nankin qui ont pu s'organiser en comité pour créer une zone de protection pour les civils. Alors cette initiative était dirigée notamment par John Rabe, un homme d'affaires allemand, membre du parti nazi, qui est devenu finalement l'Oscar Schindler chinois.
D'accord.
Et qui a aujourd'hui sa statue exposée au mémorial de Nankin.
Ah oui?
Oui. Et cette zone de sécurité internationale a permis à des centaines de milliers de civils de trouver un refuge et d'être sauvés, quand même. Et les membres de ce comité ont aussi documenté les atrocités commises en rédigeant des rapports détaillés, complétés avec des photos. Ces documents deviendront plus tard des preuves importantes pour les historiens et les tribunaux internationaux.
Oui, j'imagine, dans ces cas-là. Alors, quelles ont été les réactions sur le plan international, justement?
Elles sont restées limitées à cause des crises économiques et par la montée des tensions en Europe. C'était la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'était à notre tour, je dirais.
Ouais.
Mais les récits du massacre de Nankin avaient commencé à circuler dans la presse mondiale, ce qui a choqué l'opinion et contribué à renforcer l'image du Japon comme étant une puissance agressive et brutale. Ça fait une très mauvaise réputation avec ça. Et cette deuxième guerre sino-japonaise se transformera en conflit prolongé, extrêmement destructeur, bien sûr, pendant plusieurs années, jusqu'à s'intégrer en 1941 dans celui de la Seconde Guerre mondiale qu'on connaît, après l'attaque japonaise contre les États-Unis à Pearl Harbor, et jusqu'à la reddition du Japon en 1945.
D'accord. Alors, on peut comprendre que les relations entre la Chine et le Japon sont compliquées depuis, forcément.
Le massacre de Nankin et la guerre ont toujours des conséquences importantes sur la relation entre la Chine et le Japon parce que pour les Chinois, cette tragédie est devenue un symbole de la brutalité de l'occupation japonaise et de la souffrance nationale. C'est un sujet vraiment très sensible. Alors en Chine, il est commémoré comme l'un des épisodes les plus tragiques de son histoire.
Oui.
Et au Japon, l'événement a parfois fait l'objet de débats et de controverses.
Ah.
Mais des nationalistes ont tenté de minimiser l'ampleur du massacre, ce qui a provoqué des tensions diplomatiques de nouveau, supplémentaires avec la Chine. Alors le Japon, depuis 1995, a présenté plusieurs fois des excuses officielles pour les crimes commis en Chine, mais beaucoup de Chinois estiment que les excuses ne sont pas sincères à cause des déclarations révisionnistes de certains responsables politiques ou suite à des débats sur des contenus des manuels scolaires.
Oui, ça va pas de pair forcément, d'accord.
Voilà.
Alors, tu peux nous en dire plus sur ce qui est arrivé à Puyi, empereur fantoche du Manchukuo.
L'incident de Mukden et puis l'invasion de la Mandchourie en 31.
D'accord.
Le Manchukuo sera créé en 32, comme je vous le disais. Donc Puyi va devenir empereur sous le nom de Kangde. Ah bon. Alors c'était, okay. Comme souverain, il n'avait aucun pouvoir, hein. Il était surveillé,
oui,
isolé,
ça, j'imagine.
Voilà, on pourrait même dire, il était tout le temps surveillé, c'est
ouais,
ça.
Oui, contrôlé, voilà. Enfin voilà. D'accord.
Okay. Alors, c'est le début, en 1945, oui. La situation va changer avec
forcément.
L'offensive russe contre l'armée japonaise qui va s'effondrer rapidement, mm-hmm. et l'état du Mandchoukouo va disparaître en même temps.
Je suppose, oui.
Voilà, Pipouyi, il va tenter de se réfugier au Japon, puis il va être arrêté. Voilà.
D'accord, ok. Bon.
Bon.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce massacre de Nankin.
De Nankin, tout à fait, Didier.
Bon, on va falloir qu'on se pose, là, alors.
Oui, on va faire une pause musicale,
d'accord.
Didier.
D'accord, ok.
Voilà, avant de que tu nous racontes l'histoire du riz.
Oui, alors une petite chanson traditionnelle qui nous évoque le riz. Je vous laisse en profiter.
C'était l'histoire du riz en chanson, je suppose.
Oui, alors c'est la chanson, en fait, une chanson populaire qui s'appelle « La souris aime le riz ». A priori, c'est une chanson très populaire en chinoise.
Alors, voilà. Oui, c'était chinois.
Oui, c'est sûr, mais je n'ai pas pu vérifier sa popularité exacte. Mais c'est vendu comme ça, en tout cas.
Bon, écoute, on va le prendre comme ça.
Voilà, aussi, exactement.
Didier. Bon, alors raconte-nous comment est arrivé le riz sur les tables françaises.
Oui, parce que je ne sais pas si la chanson...
Voilà, dans les rizières françaises.
Je ne sais pas si la chanson était populaire vraiment en Chine, mais par contre, le riz l'est quand même en France, quoi.
Oui, c'est vrai.
On en mange de plus en plus, je pense. Donc, l'histoire du riz en France, elle est méconnue, mais pourtant, sa culture a une histoire ancienne en Europe, où elle est développée progressivement au sud. Forcément, cette histoire est mêlée d'échanges, d'expérimentations agricoles et d'adaptation des environnements, en particulier, bien sûr, en France, dans la région de la Camargue, qui est bien connue pour ça. Pour rappel, le riz est l'une des plus anciennes plantes cultivées au monde. Sa culture remonte à plusieurs millénaires dans les régions correspondant aujourd'hui à la Chine et à l'Inde.
Mmh.
Alors, pendant des siècles, cette céréale s'est diffusée progressivement vers l'ouest grâce aux échanges commerciaux, un peu comme d'habitude, hein, et aux migrations. Le riz a été introduit dans le bassin méditerranéen durant l'Antiquité, puis au Moyen-Âge. Les Arabes ont joué un rôle majeur dans l'introduction de nombreuses cultures agricoles en Europe, dont le riz. Il s'implantera d'abord en Espagne et en Italie, deux régions où les conditions climatiques et hydrologiques permettent son développement. En Italie, notamment dans la vallée du Pô, c'est connu pour ça aussi, la riziculture devient importante dès la fin du Moyen-Âge.
Oui, hein, c'est un pays de riz, en fait,
c'est
l'Italie.
Ça, oui.
Le risotto. Hein.
Et voilà, et en Espagne, on va passer, et aussi, ce sera des zones marécageuses autour de Valence, ça surprendra personne avec la paella, hein,
ah oui,
et dans le delta de l'Ebre, et en Catalogne. Donc, voilà.
Ah oui, mais en Catalogne, oui, bien sûr,
aussi.
Ils mangent aussi beaucoup.
Et oui, aussi.
C'est l'encre, le riz à l'encre de sèche.
Alors, je sais pas, moi je suis plus paella de Valence, moi, mais bon, chacun ses choix. Hein.
Oui.
Alors, Donc,
alors, quand est-ce qu'ont lieu les premières tentatives de culture en France, Didier ?
Alors, en France, les premières mentions de la culture du riz apparaissent plus tardivement. C'est à la Renaissance que les agronomes évoquent la possibilité de cultiver le riz dans des régions humides du sud du pays. Mais ça va rester marginal pendant longtemps, hein, car c'était compliqué à cause du climat français tempéré, pas vraiment favorable à la riziculture, et aussi à cause de l'absence de système d'irrigation permettant d'inonder les rizières. Malgré ces difficultés, des expériences limitées seront quand même menées dans des régions marécageuses du Languedoc et de la Provence. Alors c'est finalement en Camargue, comme on l'a dit, que le riz va s'implanter. Situé dans le delta du Rhône, la Camargue est une vaste zone de marais, de lagunes et de terres salées qui était considérée comme difficile à exploiter sur le plan agricole. Du coup, ces sols plats et l'abondance de l'eau ont permis l'aménagement d'irrigation des terres au 19e siècle, avec un réseau complexe de canaux, de digues et de stations de pompage.
Bah oui, ça doit être compliqué quand même d'installer des rizières.
C'est un peu technique, oui. Surtout que donc, les rizières nécessitent en effet une gestion précise de l'eau, d'autant plus les champs doivent être inondés fin avril,
oui, c'est ça, y a des
puis
dates.
Voilà, laisser en eau jusqu'au mois d'août, puis drainer en septembre pour permettre la récolte. Moi, ça, j'avais pas ça. Donc, il fallait maîtriser tout ça.
Oui, il faut maîtriser tout ça. Il faut être sûr d'avoir de l'eau dans cette période-là.
C'est mieux.
Alors, quand est-ce que sa culture s'est vraiment développée, Didier ? Parce que on est dans les essais.
Dans les prémices, comme tu dis. C'est ça. Au XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, la France a voulu diversifier sa production agricole, réduire les importations pour assurer son autosuffisance alimentaire.
Oui, toujours l'objectif.
Exactement. La Camargue apparaissait comme un territoire prometteur pour développer la riziculture. Aussi, donc, les autorités publiques ont encouragé les agriculteurs à l'expérimenter, d'autant plus que la culture du riz présente un avantage particulier en permettant de lutter contre la salinisation, je savais que j'allais avoir du mal, des sols avec l'eau douce pompée du Rhône. Donc du coup, à partir des années 1950, la production de riz camarguais va augmenter rapidement avec la mécanisation agricole et une meilleure sélection des variétés de riz. La France est devenue le troisième producteur européen avec 5,5% devant le Portugal et la Grèce. Bon, bien loin derrière l'Italie avec 59% et l'Espagne avec 25%.
Oui, on n'est pas un gros producteur,
même
si on est le troisième.
Ça reste marginal, je trouve.
Oui, c'est marginal, oui. Alors, quelles sont les caractéristiques du riz de Camargue, Didier ? Est-ce qu'il est bon, le riz de Camargue ?
Alors, le riz de Camargue, je ne vais pas dire le contraire quand même. Le riz de Camargue se distingue par des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, avec notamment la rotation des cultures et la réduction de l'utilisation de produits chimiques. Ça, déjà, ça démarre bien. La présence des rizières contribue aussi à l'équilibre écologique de la région en offrant un habitat pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Et j'ai pu le vérifier par moi-même, qu'aime la nature et la photographie animalière. Là, les oiseaux, ils sont particulièrement sympas pour les photographies. Il y a plusieurs variétés cultivées, des riz longs, des riz ronds, des riz dessinés à tous les usages spécifiques, comme aussi donc, le dessert. Il faut aussi savoir que pendant longtemps, le riz n'a pas eu de vraie place dans la cuisine française. Le riz était considéré comme un produit importé.
Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de plats à base de riz, à part le dessert riz au lait, mais bon, ça vient plutôt d'Espagne.
J'imagine, ou d'Italie.
Mais on n'a pas de plat de riz.
Souvent on accompagne du riz avec la poule au pot, mais est-ce que c'est à l'origine, je pense pas, puisqu'il n'était pas là au moment d'Henri IV. C'est ça. Donc je ne sais pas, oui, effectivement, quand on réfléchit, il y en a peu. C'est l'ouverture aux cuisines étrangères, les changements d'habitudes alimentaires qui ont fait devenir un ingrédient courant dans de nombreux plats consommés en France aujourd'hui.
Oui, maintenant, c'est vrai que ça fait partie de nos habitudes alimentaires.
Surtout l'été
avec les salades.
Oui, puis la vague d'envie de cuisine asiatique aussi qui fait que ça arrive aussi.
Alors, quels sont les enjeux contemporains de la riziculture française, Didier ? Est-ce qu'on va continuer à en cultiver ?
Elle fait face à plusieurs défis importants, dont le changement climatique, encore une fois.
S'il y a des sécheresses.
Ça ne va pas aider la concurrence internationale. Forcément aussi, la production française bénéficie d'une reconnaissance de qualité avec l'obtention d'une indication géographique protégée pour le riz de Camargue, où les producteurs cherchent à concilier productivité et préservation de l'environnement. Donc ça, c'est le bon côté.
C'est le bon côté. Oui. Alors, est-ce qu'il y a eu des Asiatiques qui sont venus pour travailler dans les rizières françaises, Didier ?
Alors, tu l'imagines bien avec notre histoire coloniale, oui. Notamment, oui, bah, du Vietnam.
On avait de la main-d'œuvre.
Bah, voilà, qu'on pouvait faire venir du Vietnam, du Laos, du Cambodge. Dans une moindre mesure de Chine, et leur présence s'explique bah, voilà, par le contexte colonial et puis par le besoin de main-d'œuvre agricole pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, on l'a vu avec les Chinois de la Baie de Somme.
Voilà, je veux dire, on en a parlé il n'y a pas très très longtemps. Alors dans ces régions, la culture du riz constituait depuis des siècles l'activité agricole dominante, donc forcément les populations indo-chinoises possédaient une grande expertise dans la gestion des rizières, ce qui a dû forcément aider localement à s'implanter et à avoir des bonnes pratiques, quoi. Alors, dans ce contexte que leur savoir-faire va attirer en fait l'attention des autorités françaises qui les feront participer à l'introduction, à l'amélioration des pratiques agricoles, et ça nous rappelle que la diffusion du savoir, c'est souvent lié aux migrations et aux échanges entre les régions du monde, ce qui est encore le cas aujourd'hui pour bien des choses au niveau culinaire.
Et pas que culinaire.
Non.
Exactement. Vrai, sur le plan culinaire... Il y a une, je dirais les pizzas, on en mange partout dans le monde, par exemple.
Clairement.
Je pense que c'est peut-être le plat le plus consommé.
Je crois que j'avais entendu ça.
Oui, il n'y a pas de riz dans les pizzas.
Par contre, là, ce qui va nous manquer ce soir, parce que l'émission est toujours trop courte, c'est des recettes de riz. Mais ce n'est pas grave, on fera une émission sur le côté, après la culture, le côté culinaire du riz. Alors, je ne sais pas quand, mais il suffit de nous écouter dans les émissions prochaines. Vous pourrez peut-être profiter.
C'est une bonne idée.
Hein, voilà, parce que le riz, ça me paraît être une base importante aussi de l'alimentation.
Oui, puis c'est...
On a déjà parlé des nouilles et ramen et tutti quanti, pour rester en Italie. Et on pourra voir à un moment peut-être pour maintenant voir le côté gastronomique et comment on le mange en France et ailleurs.
Hein, okay, Didier, on fait ça. Bon, Asialogie, c'est terminé.
Oui.
Les amis, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, jeudi à 12h, samedi à 9h30 et mercredi à 13h, en attendant une nouvelle émission le jeudi de la semaine prochaine, bien sûr. Bon, retrouvez-nous sur notre page Facebook, laissez-nous des petits commentaires.
C'est ça.
Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Radio Alpa. Et on peut bien sûr,
il faut pas oublier
sur toutes les plateformes.
C'est ça qui est chouette maintenant, Radio Player. Je reviens de vacances, je mets Asialogie et ça s'enchaîne d'épisode en épisode, donc vous n'avez plus aucune excuse pour nous dire que vous avez loupé une émission ou si vous avez envie de les réécouter, forcément. Donc voilà, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, prenez soin de vous.
Belle semaine.